Ils ont critiqué le progrès. Un article de Claire Debauve. Grincheux, réac, prophètes de malheur, sont les sobriquets souvent réservés à ceux qui questionnent les choix techniques de leur époque. L'historien François Jarige revient pour CNRS Journal sur le mouvement des technocritiques né au début de l'ère industrielle. Ah, je pense à parler de Ellul, Charbonneau et André Gorz, à mon avis. Il y a moyen que ça les évoque, je pense. On a déjà pas mal lu des sujets là-dessus, en vrai. Ils n'ont pas fait une version 100% française, ce qui peut être possible, malheureusement. Non, mais vaut mieux que ce soit pas en français, 100% français, en vrai, Diascan. Bon, bref, Osef. Briseur de machines, paysan anti-pesticide ou intellectuel sceptique quant aux bienfaits du progrès, les technocritiques interrogent la place des techniques dans nos sociétés depuis plus de 200 ans. Pourquoi raconter leurs histoires? Bien sûr, ok, my bad, j'ai mal compris. François Jarige, dans ce livre, j'ai tenté une synthèse historique des différents auteurs et mouvements technocritiques, néologisme forgé dans les années 1970 par le philosophe Jean-Pierre Dupuis. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce que je l'ai appris récemment, néologisme, ça veut dire en gros nouveau mot. J'ai appris ça récemment. Globalement, c'est la construction d'un nouveau mot. Si je dis, vous me dites si j'ai une bêtise, mais je crois que c'est ça. Leur redonner audience, rééquilibrer le débat, généralement inégal et caricatural, entre tenants et opposants à la technique. Cela permet aussi d'observer les constances dans ces questionnements à travers les époques, que ce soit sur la question des dommages environnementaux ou sur le remplacement des hommes par la machine. Ouais, en vrai, c'est intéressant d'en parler. Et on mattra prochainement une interview de Jacques Ellul qui parle de ça. C'est vrai que j'ai l'impression de ne pas être encore équipé politiquement pour en parler. Mais j'ai vraiment envie de la faire, donc je pense qu'on la fera et au pire on refera un autre react un an plus tard pour un peu mieux comprendre, s'il faut. Que signifie critiquer la technique? Ceux que j'appelle technocritiques ont en commun de penser que les techniques ne sont pas neutres. Elles n'arrivent pas nulle part pour s'imposer tout naturellement. Ouais, ça je suis vraiment d'accord là-dedans, la technique n'est pas neutre, évidemment. Bien au contraire, parce que les techniques sont le produit d'une société, d'une époque, elles posent question. C'est encore plus vrai dans nos sociétés contemporaines qui se sont mises aux progrès techniques pour construire leur avenir et mettre en place leur domination. Ça, je pense que c'est dommage de pas en parler, c'est que la technique permet de construire un avenir, mais aussi et surtout de continuer à mettre en place une domination sur le sud, notamment, mais pas que. Pour les technocritiques, il ne s'agit pas de critiquer la technique ou les techniques en soi, cela n'a pas de sens. Les outils font partie des activités humaines et même animales. Depuis que l'on en garde des traces. En revanche, on peut chercher à comprendre dans quel contexte s'imposent les machines à étudier leurs effets et les discours qui les accompagnent. Ouais, par exemple, tous les discours liés à l'emploi, on peut voir que c'est lié au système néolibéral, par exemple. Les néologismes, ce que tu trouves à foison dans l'œuvre de Deleuze et Guattari, et qui fait que c'est difficile à lire quand tu les connais pas. Ah, ok, rhizomatique, d'accord. Je comprends mieux le truc, ok. On retrouve les mêmes idées qu'avant. Oui. L'emploi du mot technique lui-même n'est-il pas ambigu? Avoir un regard critique sur la technique suppose au préalable de réfléchir à ce mot particulièrement flou en englobant. De quoi parle-t-on? D'un marteau? Du téléphone? Du nucléaire? Du numérique? Le sens du mot technique a d'ailleurs beaucoup évolué avant le 19e siècle. Il est très peu employé et désigné un procès propre à un art, comme la technique vocale. Oh, c'est intéressant ça. Avec l'industrialisation, le mot se répand pour nommer un procédé efficace, de plus en plus synonyme de machine. Le problème de vocabulaire illustre la difficulté à interroger la notion de technique, pourtant au cœur de la modernité. C'est presque aussi périlleux aujourd'hui que de discuter de l'existence de Dieu au 17e siècle. Ouais, c'est vrai, en vrai, c'est vrai. Hein. Le côté technique et machine, et maintenant, c'est vrai qu'il faudrait limite séparer avec des nouveaux mots pour dire en gros les techniques machines, les techniques manuelles, etc. Alors, en vrai, on peut dire machine et manuelle, mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Oui, les technocritiques sont plutôt critiques des technologies, en fait. Oui, c'est ça, exactement. De la technologie, en fait. Ouais, c'est ça. Et oui, par rapport au néologisme de Deleuze et Guattari, c'est pour ça que moi, quand je lis Deleuze et Guattari, j'aime bien, en gros, regarder la définition des mots, parce qu'en vrai, ils n'expliquent pas forcément les mots tout de suite. Et du coup, c'est bien d'avoir un espèce de bagage avant de lancer dans la lecture, pour un peu comprendre de quoi on va parler, quoi. Quand le phénomène des technocritiques a-t-il commencé? Quand le phénomène a-t-il commencé? Ce phénomène remonte au début de la du machinisme, à l'orée du 19e siècle. Dans le secteur textile, par exemple, l'arrivée des machines mécaniques a été émaillée de nombreux incidents. Emblématique de cette époque, le mouvement Luddite en Angleterre et ses briseurs de machines a opposé les artisans tondeurs et tricoteurs aux manufacturiers pour favoriser l'emploi des machines dans le travail de la laine et du coton. Et du reste, sur le sujet, je crois, enfin pas en Angleterre, mais il y a Oui d'accord, la prochaine vidéo va parler des canuts de Lyon. Donc pareil, c'était des tisserands, je crois. Et du coup, bah c'est intéressant de... J'ai bien hâte qu'elle sorte, par contre. Ça fait, commence à faire longtemps, là, et j'ai trop hâte. Pour les ouvriers, les nouvelles machines étaient souvent porteuses de misère et de déqualification. Les artisans et gens de métier étaient également sceptiques face aux innovations promues par les capitaines d'industrie. Il est jugé fragile, inutilement coûteuse et incapable de réaliser des pièces compliquées et de grande qualité. Et en fait, ouais, en gros, là, je suis un peu d'accord avec cette logique-là, c'est que, en vrai de vrai, si on regarde un peu la qualité des outils, enfin, la qualité des choses qui sont produites par des machines, alors pour la plupart, c'est tout ce qui est machine industrielle, on va dire, de ordinateur, etc. Oui, là, ça fonctionne bien. Mais tout ce qui va être textile, bah, c'est vrai que, est-ce qu'on a perdu en qualité parce que c'est fait par des machines de plus en plus sophistiquées? Ou est-ce qu'on a vraiment perdu en qualité parce que le coton et le tissu est devenu de moindre qualité? Est-ce que ça serait pas un peu une forme des deux choses qui ont été mises en place? Ou est-ce que aussi, est-ce que c'est vraiment que des économies de bout de chandelle, tu vois? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Après, je pense sincèrement qu'on pourrait faire du textile de bonne qualité avec des machines. Je pense que c'est quand même plus une logique d'économie qui est liée à ça. Mais ça serait intéressant de voir peut-être qu'il y a une corrélation entre la perte de qualité et le fait qu'on soit passé en machine automatique. Il y a peut-être une connexion, j'en ai aucune idée. Ça me paraît très intéressant à réfléchir. À cette époque, le machinisme est mis en cause par les socialistes comme par certains milieux conservateurs qui pointent les conditions de travail en usine, le risque d'épuisement des ressources naturelles, la pollution, etc. Ah ouais, je savais pas qu'il parlait déjà de la pollution. C'est intéressant ça. À l'opposé, un nombre croissant d'ingénieurs et d'économistes libéraux font de la machine un instrument d'émancipation neutre, source de progrès. Ce sont eux qui gagneront la bataille des esprits, jusqu'à ce qu'une guerre ou une crise n'apporte de nouvelles remises en question. Voilà, et ça, ça se voit que c'est un truc ça se voit que c'est un truc libéral, la machine. Et en vrai de vrai, il y a plein de gens qui sont un peu en mode, est-ce que vraiment la machine, on en a besoin quand l'homme peut faire le taf? Voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, tu vois? En fait, ils vont me dire, oui, vous êtes des réacs, vous voulez pas évoluer et compagnie. Ouais, mais il y a un moment, en fait, il faut aussi se poser la question de l'utilité réelle d'une machine. Est-ce qu'une machine est vraiment utile? Et ça, Damasio en parle et je le trouve intéressant. Damasio qui n'est du coup pas du tout technophobe, puisqu'il dit, l'homme fait partie des technologies, donc je ne peux pas être technophobe. Parce que lui, il étudie vraiment tout ça, c'est juste qu'il est très très critique. Et en vrai, là où je suis d'accord avec lui, c'est quand il explique que on a créé des machines en fait qui nous aliènent, qui nous dépossèdent, qui nous rend plus amorphes, moins actifs qu'avant en fait, parce qu'en fait tout est fait par les machines et du coup on devient des petits êtres sans activité, sans travaux manuels, voilà, sans choses quoi, sans force vitale, voilà, sans puissance vitale qui nous anime. Et de ce fait là, on devient des petits rabougris quoi, des petits rabouderies qui galèrent. Et en vrai, pour imaginer ça, pensez à Wall-E. Dans Wall-E, les êtres humains sont sur des petits sièges à longueur de journée, ils ne bougent plus. En fait, ils n'ont même plus la force de pouvoir marcher, quoi. Ils ont leurs jambes qui sont toutes atrophiées, etc. Il y a aussi ça, c'est que des fois, il faut aussi peser le pour et le contre. Et en fait, l'homme est un animal qui doit s'activer, qui doit faire bouger ses muscles et compagnie, sinon on s'atrophie. Et pour ça, vraiment, les gens... je sais pas si vous avez déjà été blessé aux jambes. En vrai, l'immobilisation des jambes, en déjà un mois d'immobiliser, vos jambes fondent. C'est abusé comment les muscles fondent à une vitesse. C'est hallucinant. Et du coup, moi, j'ai été immobilisé pendant 9 mois. Ma jambe, elle était, comme ça, en fait, c'était tout petit. Vraiment, ça, c'est un truc moi qui m'a vraiment halluciné quand je me suis blessé. C'est que les muscles s'atrophient très, très, très vite. Ça me donne envie de mater Steam Boy un peu de steampunk là. Ah bah ouais, de ouf, ça correspond à ça de toute façon. Avec la machine, on n'aura plus besoin de travailler. Ah, finissez de rigoler, on va bosser jusqu'à 65 ans. Bah oui, c'est ça. Salut Sunrider. Tellement basé Wall-E. Bah ouais, Wall-E, très très intéressant pour justement comprendre la critique de l'homme qui devient complètement atrophié par le technococon, tu vois. Ah ça y est, je commence à utiliser premier degré le terme technococon. Non ! Ça y est, je suis finito. Vous insistez sur le fait que l'implantation de nouvelles techniques est le produit d'une société dans une époque donnée. A posteriori, on trouve évident de voyager en train, mais ce moyen de transport a mis des décennies à s'imposer. Comment? Et même, vous voyez, là c'est intéressant, il dit ça devient logique de voyager en train. Bah ouais, moi c'est intéressant, c'est quelque chose moi que j'évoque souvent. Le fait qu'on a perdu le goût et le plaisir de voyager. On a perdu le goût en fait de prendre du temps dans le voyage, de prendre le temps de découvrir, de chiller en fait, de dire que le voyage fait aussi partie des vacances. Et en fait, je comprends pourquoi c'est de plus en plus ça. Dans une logique capitaliste, on n'a plus le temps des vacances, où les vacances c'est genre 2 semaines et il faut vraiment les compter, etc. Bien sûr que tu vas aller très vite à ton lieu de vacances et du coup tu perds cette logique là. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement cette logique de voyage, de découverte, bah, ça te crée des nouveaux affects, ça te crée des choses que tu n'aurais peut-être jamais connues, vécues, si tu avais pris le temps de voyager. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et j'aimerais bien qu'on développe aussi, c'est retrouver le plaisir de voyager, de découvrir. Et ça, c'est des choses que je parle souvent avec mes potes. Quand mes potes ils me disent « Ouais, je veux voyager et compagnie bah », souvent, je leur dis « Mais les gars, rien que voyager dans la campagne française avec un moyen de transport genre basique, vous allez juste kiffer vos darons, quoi. » Parce que c'est une dinguerie, en fait. Genre vraiment, vous voyagez tranquillement, avec en douceur, quoi, dans les campagnes françaises, vous avez tellement de paysages, de lieux, de cultures à découvrir que voilà, il y a plein de trucs à faire, tu vois. Faut réussir à s'extraire du système. Ah, mais bien sûr, non, mais là, c'est un... bien sûr que je ne jette pas la pierre à ceux qui sont alignés, pas du tout. C'est évident que les gens pensent comme ça, en fait. Moi, je crois que c'est la faute du lobby de l'osieux guatarien de ce chat. Je te jure, rhizomatique, vraiment incroyable. Perso, j'ai connu le monde sans internet et téléphone portable, et c'est dingue de se dire qu'on avait une société sans ça, c'est limite impensable. Ouais, de ouf, Farwitch, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Salut, Cycle, je suis à la campagne. Bah, mais voilà, mais en vrai, moi, je dis souvent ça à mes potes, parce que tu sais, mes potes, c'est un peu bandeur, genre voyage exotique et tout. Et vraiment, je leur dis, mais les gars, genre, aller en campagne française, enfin, dans les différentes régions de la France, il y a des trucs, il y a des paysages magnifiques, en fait. Et justement, il faut préserver ça, il faut revitaliser ça. Et c'est très, très important d'essayer d'amener des discours un peu pour. Ah ouais, pour essayer de retrouver le plaisir de voyager rien qu'au sein de l'Europe, quoi. T'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Bref, on continue. La machine à vapeur et la locomotive sont sans nul doute les premières machines emblématiques du progrès technique. Or, ses débuts, le chemin de fer, était un choix incertain et contesté. Il s'agissait d'abord de transporter du charbon et des marchandises, pas des humains. Ah, vous voyez, et comme d'hab, hein, la logique, on en a parlé tout à l'heure, la logique de d'abord intégrer l'évolution technique pour mieux exproprier les ressources. Je l'ai fait à plusieurs reprises et pour se réintégrer, c'est pas parce qu'il y a plus facile. J'ai pas capté discount. Bien sûr, venez, venez. Mais let's go, mais oui, bien sûr, les campagnes. Des ingénieurs trouvaient d'ailleurs cette technique absurde, coûteuse, d'un rendement énergétique faible et qui plus est dangereuse. Ils jugeaient préférable d'améliorer l'état des routes et la navigation intérieure. Pourquoi le chemin de fer s'est-il finalement imposé? Car résulte de l'action industrielle pariant sur le potentiel d'efficacité du ferroviaire et la machine à vapeur. Aller plus vite, produire plus, fonctionner toute l'année en étant affranchi de certaines contraintes naturelles comme la période d'étiage. Et vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, à l'heure actuelle, on se dit « Waouh, ouais, trop bien, on a évolué et compagnie ». Ouais, mais mine de rien, peut-être que le monde, si on n'avait pas découvert ce genre de choses-là, bah, peut-être qu'on aurait un monde totalement différent, plus lent, où on bosserait beaucoup moins et on aurait justement ce plaisir de voyager pendant genre 1 mois, 2 mois, voire 6 mois. Tu fais 50 km en 6 mois, mais c'est une vraie expérience, tu vois. C'est ça qui est ouf, c'est que bah, ça a permis... Alors oui, c'est bien, on a plein de choses, on peut streamer et tout, donc évidemment que c'est trop cool, je vais pas renier ça. Mais on aurait pu avoir une société tout autre. Peut-être même que c'est parce qu'on a supprimé le temps du voyage qu'on n'apprécie pas pleinement le temps de vacances en lui-même. Je suis d'accord avec cette tech, Digobor, clairement d'accord avec ça même. Logement, boulot, quand tu quittes tout, 1 an, 2 ans... Ah oui, Discord, oh, okay, pardon. Oui, bah oui, c'est sûr que c'est difficile de se réintégrer, évidemment, je comprends. Le chemin de fer accompagne aussi la montée des États-nations et le projet de contrôle du territoire. Ah. En créant une multiplicité de contacts entre les hommes, le chemin de fer est censé contribuer à la réalisation du projet kantien de paix perpétuelle. Ah là là, basé, ça je suis... Voilà le genre de thème que je kiffe. Comment le chemin de fer a uniformisé la population et a permis d'installer le capitalisme. L'État a aussi massivement soutenu le chemin de fer aux États-Unis, en France comme dans les empires plus tard, pour unifier les territoires nationaux. Grâce à tous ces investissements, le chemin de fer s'est répandu et perfectionné, et le transport fluvial a été marginalisé. L'histoire montre que les techniques sont des objets sociaux et non des inventions géniales que l'on adopte parce que leurs bienfaits sont évidents ou naturels. Et ouais, et en fait, très souvent, malheureusement, la technique est utilisée pour mettre en place une domination sur les prolétaires, quoi. Très, très, très souvent. Et c'est pour ça que les gens qui sont un peu réac sur les sujets comme ça, ben, faut les comprendre. Genre, les gens qui sont réac sur les compteurs Linky, qui sont réac sur les trucs comme ça, la 5G, etc., ben, l'affect de départ est pas débile, et même très, très loin d'être idiot. C'est un affect qui est compréhensible, et en fait, si tu commences à le réfléchir avec une critique des techniques, un peu avec un logiciel gaussien, par exemple, ou un logiciel, le logiciel d'Ellul, ben justement, la critique prend tout son sens. Et ce qui est intéressant, c'est de construire un discours qui permet de critiquer les techniques sans tomber dans le bateau réactionnaire de juste dire oui. Enfin, je ne pourrais même pas vous dire c'est quoi la réflexion réactionnaire, mais voilà, vraiment réfléchir à est-ce que la technique nous émancipe, est-ce qu'elle émancipe le capital, est-ce qu'elle permet au capital de mieux nous dominer, ou est-ce que c'est vraiment un outil qui émancipe les dominés, etc. Voilà, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut mettre en place. Sur ce thème de l'annulation des distances, de la réduction du temps de voyage permis par les moyens de transport et ses effets sur notre rapport au monde, je conseille la privation du monde, temps, espace et capital de Frank Fischbach. Il me semble que tu me l'as déjà... Je crois que tu me l'as déjà partagé, ce truc-là. Hop là. Le Linky est une technologie de contrôle. Oui, exactement, Sunrider. Le Linky, c'est une... Non, mais t'inquiète, Rizmatic, n'hésite pas à le faire. Hein. Moi, je kiffe. Hein. Mais c'est juste que, de souvenir, je crois que tu me l'as déjà filé. Cela me rappelle un auteur SF qui mettait en parallèle l'invention des transports et la guerre de masse. Plus on peut se déplacer vite, plus les guerres font de morts et à la fin, c'est l'humanité qui se détruit. Donc, il imagine un monde post-apo où le fauteuil handicapé sont autorisés. Ouais, non, mais clairement, Arwitch, bah, ça, c'est la logique aussi des flux. Hein. Toute la logique des flux, c'est exactement ça. Hein. C'est de dire, en gros, que les flux ont été mis en place et gérés par la logique martiale. Et du coup, il a fallu augmenter la rapidité des flux, donc les transports, en mettant des autoroutes, etc. Puis, bah, il y a des trucs tout cons, hein, mais... Le fait que Hitler il met en place une autoroute pour lancer ses attaques, enfin pour soi-disant lancer le pays, c'est pas pour rien. D'avoir mis des autoroutes partout, c'était pour aussi avoir une meilleure mobilité, quoi. Il joue très bien cette idée. Non, t'inquiète, mais en vrai, Oxmatic, n'hésite pas si t'as des. Même si tu répètes, y'a aucun souci. Hein. Ça me permet, moi, en vrai, ça me permet de voir des connexions, donc n'hésite pas. En y réfléchissant, le chemin de fer garantit la paix impériale en permettant le mouvement de troupes rapides. Ouais, c'est ça exactement. L'histoire du chemin de fer aux États-Unis, c'est sombre, le réseau s'est développé en même temps que la gigantesque industrie du bétail pour transporter les bêtes, puis la viande frigorifiée, ensuite sont venus les hommes. Ouais, ok. Ah là, putain, mais quel enfer. Hein. Ah, c'est bien, vous êtes ouais, intéressant. Très intéressant, c'est la question de contrôle et tout. Bah, moi, je kiffe hein, les gens, là, tout ce qui est lié à gestion de contrôle, etc., société de contrôle. C'est mon dada, donc on va en parler de toute façon dans les streams, donc voilà, n'hésitez pas à évoquer ce genre de thème, mais on en reparlera de toute façon. Les années 1930 représentent une époque importante pour la critique des techniques. Déjà, dès la fin de la Première Guerre mondiale, le lien est fait entre la technologie employée, aviation, mécanique, chimie, et l'hécatombe de 14-18. En 1919, Paul Valéry écrit que la science a été déshonorée par la cruauté de ses applications. Ah, tu m'étonnes. Hein. En vrai, même hein, le truc tout con, mais le truc de voir qu'on a utilisé les bombes nucléaires pour taper sur les Japonais, bon, super quoi. Les années 1930 constituent une grande période technocritique qui amène plutôt des intellectuels, alors que la crise fait rage et que s'installent des régimes totalitaires. La philosophe française Simone Veil, par exemple, s'inquiète. Produire toujours plus, en série, use les capacités humaines et les ressources naturelles. Mais pour quels besoins réels ? Ah voilà, et ça c'est la clé de compréhension. Des économistes tels que John Maynard Keynes s'interroge sur le phénomène du chômage technologique. À cette époque, de nombreux livres marquants questionnent la modernité technique. Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, Regard sur les mondes actuels, de Paul Valéry, ou encore les ouvrages aujourd'hui oubliés, de Georges Duhamel. En vrai, je pense que je vais lire son bouquin, il a l'air grave intéressant. Tout ce qui est retour comme ça, généalogique de l'histoire, je trouve ça trop trop intéressant. Les années 70 marquent un autre réveil des technocritiques. Que passe-t-il à cette époque ? Après la Seconde Guerre mondiale, l'urgence est la reconstruction. La technique informatique, notamment, deviennent des instruments de paix et de liberté. Ce n'est qu'à l'occasion d'une nouvelle crise que s'ouvre une nouvelle phase technocritique dans les années 70. Qu'on pense à la crise pétrolière de 73, je suppose. Pacifistes, antinucléaires, écologistes, tiers-mondistes, critiques de la société de consommation, nombreux sont les courants qui y contribuent. Des acteurs comme Jacques Ellul, penseur de la technique, ou Ivan Illich, penseur de l'écologie politique, insistent sur les effets contre-productifs de l'industrialisation. Voilà, donc ça, des auteurs qu'on a beaucoup évoqués et qu'on va continuer d'évoquer en stream, que j'apprécie tout particulièrement. Ce dernier milite pour des outils conviviaux, contre le suroutillage et le gigantisme technicien des centrales nucléaires. Et donc ouais, sur la centrale nucléaire, on aura surtout, moi c'est surtout la critique de Gorz, mais qu'il y a Illich, hein, les deux sont liés de toute façon. Gorz, il appelle ça des technologies verrous. Le fait que du coup, c'est des technologies verrous, militarisées, qui appuient sur le contrôle et sur l'état policier. C'est pour ça, voilà, une des critiques du nucléaire qui est intéressante, je pense, à mettre en avant, c'est celle-là. On critique le tout automobile, accident, pollution, encombrement, individualisme, etc. C'est à ce moment-là aussi qu'apparaît la notion de technoscience pour caractériser le nouveau régime de production des sciences et techniques et son credo qui veut que tout ce qui est possible doit être tenté. Ah ouais, l'enfer. Et pareil, là-dessus, sur ces histoires-là, je vous conseille l'idéologie de la bagnole. Idéologie de la bagnole, qui est un texte de André Gorz qui explique justement comment la voiture nous a servi, quoi. Donc on a fait une lecture, donc c'était il y a 6 mois. Alors je lisais peut-être pas très bien à l'époque, mais voilà, vraiment si vous voulez, donc il y a la source, hein, pour ceux qui veulent la lecture, et très 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 bon article. On s'active plus pour les besoins artificiels du marché, de l'économie et de la sacro-sainte croissance que pour les besoins réels des êtres, finalement. Exactement, Digobor. Mais on le voit, hein, on a complètement déglingué les relations sociales et le lien, tout ce qui est métier du lien, etc. Ça a été déglingué, alors qu'on favorise des métiers économiques, financiers même. Donc ouais, non, t'as clairement raison. Certains savants ont fait partie du courant des technocritiques. Pouvez-vous nous donner quelques noms ? La prise de distance de chercheurs et d'ingénieurs vis-à-vis de la technique est particulièrement frappante contre le nucléaire après 45. On trouve parmi eux Albert Einstein et Frédéric Joliot-Curie. En pareil, Einstein qui a pris position, on a lu aussi un texte là-dessus, je vous mets en avant parce qu'il m'avait beaucoup touché. On avait lu un texte d'Einstein qui justement prenait position pour le socialisme et disait justement qu'il faut que les scientifiques prennent position. Et ça m'avait beaucoup beaucoup touché à ce moment-là parce que bah, malheureusement, les scientifiques sont assez frileux, quoi. Hop là. Je vous mets le lien pour ceux qui veulent. Einstein vraiment basé, on l'oublie beaucoup trop. Ouais, de ouf, de ouf. Très, très, très basé. Et en fait, basé et en plus politique. C'est ça qui est important. C'est que vraiment, Einstein était politique. Genre, il était politique et il prenait des positions politiques en tant que figure scientifique. Et ça, c'est vraiment rare. Et à l'heure actuelle, c'est devenu quasiment, je vais pas dire inexistant, mais... Pour tes liens, il faut remonter le chat ou tu peux les trouver d'autre part. Il faut remonter le chat, mais sinon tu peux trouver en vrai sur le Zotero ou sur le site. Normalement, il y a quasiment tout. Et sinon, tu tapes les noms qu'on a évoqués dans la page YouTube et tu devrais trouver facilement en vrai de vrai. Il y a aussi un site avec qui fait des archives YouTube au cas où. Ah merde, non, c'est pas lui. Bref, il y a un WordPress qui traîne, quoi. Depuis la crise du Covid, ça s'est bien aggravé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Des chercheurs ayant participé à l'élaboration de la bombe nucléaire, le mathématicien John von Neumann y compris, sont traversés des doutes profonds, même s'il est difficile de les exprimer à l'époque. Ce dernier estime que les progrès scientifiques et techniques pourraient mettre l'humanité en péril. Avec un pessimisme certain, von Neumann constate l'extrême vitalité du système technologique qu'il semble vain de vouloir freiner. Alexandre Grothendieck, donc lui un écologiste assez radical, est aujourd'hui considéré comme l'un des grands mathématiciens du XXe siècle. Or, il a rompu avec la recherche académique et dénoncé l'alliance entre la recherche et l'industrie pendant la guerre du Vietnam. Il a également créé en 70 « Survie et vivre », un mouvement écologiste radical. Et en vrai, Grothendieck, il a vraiment vrillé de ouf. Il a vraiment vrillé de ouf. Et en fait, il s'est enfermé et isolé dans un lieu, quoi. Et il a complètement vrillé et ça l'a rongé, quoi. C'est triste, ça revient un peu avec des ingénieurs comme Biwix, mais ça reste beaucoup trop marginal. Ouais, Biwix c'est pas mal là-dessus, ouais, de ouf. Frédéric Joliot-Curie, un gars qui a pris le nom de sa femme, ce qui était pas si courant à l'époque. Oh, merci pour l'information. J'aime bien ce genre de petite anecdote. Grothendieck, il est revenu à la mode avec ses publications de ses carnets. Oh, je ne savais pas ça, Sunrider. Ok. Pour ceux qui veulent, on avait lu un article là-dessus, enfin un petit passage dans le Hobbes. Vous tapez Hobbes hors série, mais c'était un tout petit passage. Que reste-t-il des technocritiques d'aujourd'hui ? On peut déjà s'interroger sur ce que serait notre monde si personne n'avait jamais mis en doute les bienfaits de la technique. Si personne n'avait œuvré pour retirer du marché certains produits toxiques comme le DDT, Rachel Carson, cet insecticide utilisé en agriculture et dans la lutte contre le paludisme, ou les chlorofluorocarburés, CFC, à l'origine du trou de la couche d'ozone. Et du reste, on a vu là, hier, tout à l'heure sur le vu, la couche d'ozone commence à se reboucher en 40 ans plus tard. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation paradoxale. À bien des égards, une nouvelle phase technocritique s'est ouverte. Avec la crise financière et économique, l'épuisement des ressources naturelles, les dégradations de plus en plus visibles de l'environnement, mais aussi avec la montée des inégalités sociales, beaucoup ressentent le besoin de repenser le projet technique de la modernité, son gigantisme et son accélération incessante. Et ça, je pense que c'est très très important d'en parler. Voilà, le discours de la décroissance, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Et essayer de construire un discours décroissant lié à la question décoloniale, par exemple. L'histoire des technocritiques remet en perspective certains débats très contemporains. Pour la première fois, on ose aborder la question de la puissance acquise par l'homme, capable de modifier les grands équilibres du globe, d'éteindre ou de modifier des espèces animales, artificialiser la vie. Pourtant, il reste difficile de contester le consumérisme technologique et la fascination pour les derniers gadgets censés relancer la croissance et résoudre nos problèmes. Et le débat reste encore caricatural entre ceux qui ne jugent que par l'innovation technique et à l'opposé à ceux qui voient déjà l'apocalypse arriver. Et je suis un peu d'accord avec lui, ouais. Et c'est pour ça que même la critique de Damasio quand il parle des techno-coucons, pour la plupart des gens, il passe pour un bolos, quoi. Alors qu'en vrai de vrai, Damasio, c'est un des mecs, alors, je vais pas dire les plus basés, mais qui est vraiment très nuancé sur la question et qui essaye d'être pas trop réac, enfin qui est pas trop réac que ça, quoi. Et déjà, lui, il passe pour un bolos avec le techno-cocon. Donc c'est vraiment, on est au début de la mise en place politique de tout ça. Hein. Là, c'est la petite balle pour les collapsologues. Ouais, c'est vrai, bien vu. Après, sa femme, c'était la fille de Marie-Pierre Curie. Quand tes beaux-parents ont trois prix Nobel à deux,